Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
Nuit patrimoine radiophonique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 7h du matin pour une nuit, plus que jamais, consacrée à la mémoire radiophonique. Les journées du patrimoine sont placées en 2018 sous le signe de l'art du partage. En toute humilité, nous pouvons dire qu'aux nuits de France Culture, l'art du partage du patrimoine radiophonique, nous le pratiquons tout au long de l'année avec nos auditeurs, en puisant dans les trésors conservés par l'INA pour composer les programmes que nous leur proposons. Profitant de ce week-end patrimonial, nous avons voulu consacrer plus particulièrement cette nuit à l'histoire de la radio et à l'héritage qu'elle nous a légué. Cette histoire de la radio, qui est celle du XXe siècle, les archives de cette nuit nous la feront entendre telle que les ondes l'ont transportée au fil des années, de la naissance de la TSF de Marconi au premier pas de l'homme sur la Lune, telle que la radio a elle-même contribué à l'écrire, bien souvent aux heures les plus sombres. Pour évoquer cette histoire, nous serons rejoints tout à l'heure par une historienne passionnée de radio, Marine Beccarelli, qui nous parlera notamment des émissions nocturnes. Mais nous tenions particulièrement à mettre en évidence le travail de ceux grâce auxquels nous pouvons partager avec vous chaque nuit le patrimoine radiophonique national. Responsable de l'antenne INA à Radio France, en charge des demandes d'archives des différentes chaînes du groupe, Christelle Rousseau sera là pour nous dire comment se conserve, s'organise et se transmet une mémoire radiophonique aussi longue que celle dont l'Institut National de l'Audiovisuel est le gardien. Comme les monuments et les édifices qui vous ouvrent leurs portes ce week-end, comme le mobilier, les œuvres d'art que vous pouvez y découvrir, soumises à l'épreuve du temps, les archives radiophoniques, les plus anciennes surtout, ont souvent besoin de retrouver une seconde jeunesse avant d'arriver à vos oreilles. Et c'est avec ceux qui sont chargés de ce lifting sonore, de ce bain de jouvence que s'ouvre cette nuit du patrimoine radiophonique. Bonsoir Jonathan Fitoussi, bonsoir Christophe Jolibois.
Bonsoir Alban.
Bonsoir Alban.
Tout d'abord, où sommes-nous? Qui êtes-vous et que faites-vous?
Alors,
Jonathan Fitoussi.
Nous sommes donc dans les studios de restauration de l'antenne INA Radio France, juste à côté de la maison de la radio. En fait, nous étions longtemps dans la maison de la radio, mais là, nous sommes un petit peu à côté à cause des travaux que la maison de la radio a subis. Donc voilà, je m'appelle Jonathan Fitoussi et donc je suis restaurateur d'archives radiophoniques pour l'INA. Et nous sommes donc avec Christophe.
Bonsoir Alban, je suis Christophe Jolibois et je suis également membre de cette équipe de l'INA qui travaille pour l'antenne Radio France ici, à proximité de la maison de la radio. Et nous travaillons pour la sauvegarde et la restauration du patrimoine radiophonique avec nos studios respectifs.
Quelle différence entre l'activité de restauration de l'INA ici, donc à deux pas de la maison de la radio, et celle de Brie-sur-Marne où est basée l'INA ?
Alors en fait, nous sommes du coup quatre restaurateurs d'archives radiophoniques à l'INA et donc nous sommes deux à proximité de Radio France parce que notre activité est vraiment en lien avec les demandes faites par Radio France car nous alimentons les demandes des émissions et des producteurs avec les archives que nous restaurons, voilà, ce qui explique notre proximité. Nous traitons aussi des archives pour le fonds, pour le patrimoine. Et à Brie-sur-Marne, les choses, enfin, disons que les supports sont les mêmes, les problématiques de restauration sont les mêmes, mais du coup, les clients ne sont pas les mêmes, ils ne travaillent pas pour Radio France, mais du coup, ils travaillent aussi sur des éditions discographiques et puis aussi sur le fonds pour le patrimoine.
Nous travaillons vraiment comme un diffuseur presque, avec notre client Radio France. Et ça a eu aussi une incidence sur notre travail dans le sens où, on le verra peut-être tout à l'heure, le travail que nous effectuons est vraiment orienté pour une diffusion antenne. Donc ça peut avoir des incidences sur certains types de réglages qu'on va opérer ou des échanges qu'on a aussi avec l'ensemble de l'équipe et des clients et des producteurs.
Donc vous fournissez aux chaînes, aux producteurs que nous sommes, les archives dont ils ont parfois besoin ou impérativement besoin pour leur programme, comme nous aux Nuits de France Culture. Mais entre vous et les producteurs, il y a bien sûr le travail des documentalistes. Comment ça se passe ?
nous avons la chance d'être au cœur d'un ensemble de l'ensemble du processus et nous faisons partie de ce processus-là avec l'équipe des documentalistes où les producteurs vont solliciter une recherche pour tel ou tel type de document. Et ensuite, nous, en tant que restaurateurs, nous sommes parfois les premiers auditeurs de ce document, puisque celui-ci n'est pas forcément écoutable, n'a pas forcément été numérisé ou sauvegardé. Et donc, on va déjà avoir ce travail d'identification un petit peu, ou de confirmation du contenu.
Jonathan Fitoussi.
Nous nous retrouvons du coup chaque semaine avec les documentalistes et toute l'équipe documentaire qui nous font part de leurs demandes et les recherches qu'elles ont pu effectuer pour les producteurs. Et donc nous apportons aussi notre expertise et un regard sur les supports pour une estimation du temps dont nous aurons besoin en studio pour remettre à bien ces documents, quoi.
Vous travaillez donc pour les différentes chaînes de Radio France, France Culture, France Musique, France Inter, sur des archives de toute nature, de la musique, des voix, des sons. Nous sommes dans une pièce relativement petite, avec autour de nous différentes machines, appareils, outils de toute génération, platine disque, lecteur de bandes magnétiques, du matériel informatique. De quel matériel partez-vous pour aboutir à quoi? Sur quel support les archives vous parviennent-elles?
Alors, nous traitons principalement deux types de supports. Puis après, on rentrera peut-être plus en détail sur les supports. Donc, tout d'abord, les disques 78 tours, qui sont des disques qui ont perduré pendant à peu près 25 ans, du début des années 30 jusqu'au milieu des années 50 à peu près. Mais à la différence des 78 tours qu'il y a eu après, ce sont vraiment des disques à gravure directe. Donc, ce sont des exemplaires originaux, des exemplaires uniques. Ce ne sont pas des disques pressés. Les disques étaient donc vierges, donc lisses de sillons. Ils ressemblent un petit peu à des disques vinyles, c'est à peu près le même format, seulement c'est une base en métal avec un vernis noir dessus, mais ça peut avoir l'apparence d'un disque vinyle, mais c'est quand même plus lourd. Et la durée d'un disque excède rarement les 4 minutes par face. Et l'enregistrement s'effectuait vraiment en gravant le son sur le sillon. Voilà, donc il y avait un procédé d'enregistrement, on peut peut-être en dire deux mots. En fait, il n'y avait pas de direct à l'époque, les émissions étaient toutes enregistrées en amont. Et du coup, ils avaient donc deux machines de gravure sur lesquelles ils posaient donc deux disques en métal avec ce vernis noir, mais qui étaient vierges, les disques étaient lisses. Et donc, quand l'émission démarrait, ils commençaient à lancer la gravure et ils gravaient donc le sillon, le son, sur le support. Mais comme le déroulement du disque va relativement rapidement, on n'a pas plus de 4 minutes, comme je disais, par face. Arrivé à la fin de la face, le temps de retourner le disque, ils auraient eu une perte de signal. Du coup, c'est pour ça qu'ils avaient une deuxième machine donc de gravure. Et quand le disque, quand on arrivait à la fin de la face, on lançait l'enregistrement simultanément sur le deuxième disque, sur la deuxième machine de gravure, tout en créant une zone de synchro, c'est-à-dire qu'on retrouve systématiquement la fin d'une face sur le début de la face suivante. On retrouvera systématiquement la fin de la face 1 sur le début de la face 2, la fin de la face 2 sur le début de la face 3, etc. Donc l'enregistrement était comme ça, et du coup, nous, quand on récupère les disques, on récupère quasiment tout le temps des disques avec des faces impaires, la face 1 et la face 3 sur un disque, la face 2, la face 4 sur un autre, etc. Et ce qui est assez marrant du coup pour l'époque, donc une fois que les émissions étaient enregistrées de par ce processus, il y avait donc ce qu'on appelait un synchronisateur de disques, ils étaient appelés comme ça dans leur feuille de métier.
Une personne humaine, enfin
une personne humaine, ouais. Qui était les ancêtres des disques jockey en fait, parce que du coup ils avaient vraiment deux platines de lecture qui ressemblent un petit peu à ces platines là, avec une mixette, une petite table de mixage vraiment très rudimentaire, platine 1, platine 2, et ils avaient à peu près donc 30 secondes pour synchroniser la fin d'une face et le début de la face suivante au casque. Et donc ils synchronisaient comme ça les deux disques. Et là, donc c'était une diffusion directe, radio, quoi. Donc vraiment, cette synchronisation avait vraiment lieu à l'écoute des auditeurs, quoi, pour le coup.
Et l'autre support sur lequel vous travaillez?
Nous travaillons principalement également sur les bandes magnétiques.
Christophe Jolibois.
Qui ont commencé à arriver un petit peu plus tard, après le disque 78 tours, et à peu près au milieu des années 40. Et Les premières bandes magnétiques étaient des bandes qui défilaient extrêmement rapidement. Donc c'était des bandes de 76 cm secondes. Et donc un peu comme le disque 78 tours minute, les personnes qui enregistraient les émissions ou les concerts ont très vite été très limitées par la contrainte de l'encombrement de ce genre de support. Donc forcément, il a fallu trouver après des compromis en termes de vitesse d'enregistrement et de qualité d'enregistrement. La vitesse est passée après à la vitesse 38 cm secondes et ensuite en 19 cm secondes, avec l'évolution aussi technique du support, c'est-à-dire la qualité de la bande a aussi évolué, la fabrication. Mais pour nous qui sommes vraiment des amoureux aussi des vieux supports et du son qui est enregistré dessus, la bande 76 cm a vraiment un grain très particulier et un son très reconnaissable à la base sans même intervenir dessus, et qui nous demande déjà beaucoup de travail en termes de restauration mécanique, ne serait-ce que pour pouvoir lire la bande et l'enregistrer et la numériser. Ce sont des bandes qui sont souvent très fragiles, qui ont beaucoup été atteintes par le syndrome du vinaigre, une réaction chimique, et qui peuvent vraiment occasionner des embarras mécaniques assez importants au moment de la lecture, dû à la vitesse très élevée.
Et d'où viennent les matériels que vous recevez? Où et comment sont-ils stockés, conservés?
Alors les matériels, en fait, donc ce qu'on reçoit, c'est suite à la demande donc des documentalistes qui nous font parvenir les matériels jusqu'ici dans nos studios. Il y a une navette qui arrive quotidiennement de Saint-Rémy l'Honoré, c'est bien ça qu'on dit, parce qu'avant on disait les Essarts, c'est là où il y a les entrepôts de l'INA, où il y a des hangars avec une bonne température, une bonne hydrométrie, etc. Tout est bien réglé maintenant pour conserver au mieux ces documents. Et chaque jour, on a des matériels qui arrivent en fonction des demandes et des matériels que nous devons traiter.
Et donc, à partir d'un matériel analogique, le but est d'obtenir un programme numérisé. Et après, comment ça se passe? Comment les transmettez-vous aux producteurs?
Alors, il y a beaucoup d'étapes entre le moment où le matériel arrive. Comment ça arrive au producteur? Bah, du coup, c'est un grand raccourci, du coup, mais une fois que les fichiers sont numérisés, on les envoie donc via le réseau, en fait, dans des serveurs qui sont à la maison mère à Bry-sur-Marne, et à la suite de quoi la documentaliste est aussi prévenue de cet envoi, et ensuite elle va pouvoir faire parvenir les documents numérisés aux clients, quoi.
Et ces émissions numérisées sont-elles conservées sur disque dur ou dans des data centers?
Ouais, data centers.
Plutôt des énormes serveurs qui sont eux-mêmes sauvegardés, donc c'est une problématique assez intéressante, puisque même le support numérique ne résout pas à long terme la problématique de l'archivage. Au contraire, ça fait que augmenter la capacité des serveurs quelque part.
Et venons-en donc concrètement au travail de restauration. Quelle est la première étape de la procédure de remise en état d'une émission ancienne? Christophe Jolibois.
Déjà, nous pouvons expertiser l'état du support quand il nous est remis. Et à ce moment-là, on va commencer à travailler sur le disque 78 tours. Il va y avoir préalablement beaucoup de phases de lecture sans enregistrement, qui vont être des lectures à base de différentes pointes, puisque le choix de la pointe est déjà un acte de restauration en soi, puisque ça va avoir des incidences sur le son. Ensuite, une fois qu'on a nettoyé plusieurs fois le sillon pour essayer de désencrasser un petit peu le sillon, on va voir quelle est la pointe qui est la plus optimale pour la lecture de ce disque et pour avoir le meilleur son de la voix, par exemple, si c'est un document parlé. Et ensuite, on va faire une lecture avec enregistrement en nettoyant aussi le disque avec de l'eau déminéralisée qui va permettre de atténuer un petit peu les bruits de surface, les rotations, les bruits parasites du disque. Et ensuite, on va enregistrer face après face pour faire la sauvegarde du document dans son intégralité. Ce qui explique pourquoi on a souvent du son en doublon sur les sauvegardes de disques 78 tours avant de pouvoir exercer le montage et obtenir un document dans la continuité.
Et quels sont, dès ce premier stade, quelles peuvent être les difficultés que vous rencontrez et les dangers, les accidents possibles?
Alors, sur les disques 78 tours, comme ce sont des disques avec une base en métal et que dessus c'est un vernis noir sur lequel sont gravés les sillons, Comme tous les vernis, avec le temps, bah, les vernis sèchent et du coup se craquellent. Et du coup, on peut avoir ce qu'on appelle des disques marbrés, c'est-à-dire qu'il y a on voit des failles, des fissures dans le vernis sur lequel sont gravés les sillons. Et du coup, ça peut créer des problèmes de lecture, comme c'est une lecture physique. On vient vraiment poser une pointe dans les sillons. Ça peut créer un problème de lecture. Ça peut engendrer des lectures forcées parce qu'il va falloir attraper les sillons avant et après pour pouvoir ensuite reconstituer
le signal. Alors, qu'est-ce que c'est que la lecture forcée?
C'est une lecture où on va tenir vraiment la tête de lecture du disque dans la main pour vraiment attraper le sillon dans son intégralité malgré un sillon qui va être endommagé pour pouvoir ensuite avoir la continuité du signal qu'on puisse remonter après de façon numérique. Donc effectivement, pour les 10-78 tours, il y a tout un tas de problématiques qui peuvent être liées au support au moment de la restauration physique. En fait, on verra que peu importe le support, il y a toujours deux grandes étapes, c'est-à-dire une restauration physique des supports pour remettre en état les supports, et ensuite une restauration audio où là on intervient vraiment avec des outils. Voilà, mais c'est un métier qui reste effectivement très artisanal. La lecture forcée, c'est pas tout le temps, mais ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Comme disait Christophe, une lecture aussi successive des disques pour nettoyer physiquement les sillons. Parce qu'en fait, on a une dégénérescence de la matière, du support. Et quand on récupère les disques, on pourra en voir tout à l'heure, on a souvent une matière blanchâtre, un petit peu comme ça, sur le disque, qui vient encrasser les sillons et qui génère du coup beaucoup de bruit. Et en fait, en faisant des lectures successives, on peut déjà nettoyer physiquement le disque et donc rendre le son de meilleure qualité.
Christophe Jolibois.
On peut dire que c'est très difficile d'obtenir vraiment une restauration numérique dont on sera satisfait à l'arrivée sans avoir au préalable une très bonne restauration manuelle. C'est vraiment l'étape essentielle, l'étape clé de toute la réussite du projet. Le but étant que les logiciels s'entendent le moins possible, puisque ça c'est une philosophie que nous avons en commun, toute l'équipe, de faire que le son analogique et le son d'origine soient le plus respecté possible, entre guillemets, parce que c'est ne pas faire entendre un logiciel qui travaille, une machine peut le faire, donc du coup le côté humain et le côté personnalisé et signé de la restauration numérique intervient dans le côté presque minimaliste de ce genre de travaux-là.
Voilà, on est entouré de très beaux magnétophones analogiques qu'on voit, qui sont imposants, qui prennent beaucoup de place, les magnétos Studer à 80, Studer à 816, magnétophone Schlumberger, et puis aussi voilà cette platine disque MT, voilà, qui sont des matériels aussi assez rares qu'on doit aussi chiner,
oui,
qu'on doit même acheter, parce que c'est bien d'avoir des archives, mais il faut aussi avoir des machines de lecture, c'est pas des machines qu'on trouve facilement aujourd'hui. Et voilà, donc là, c'est aussi un plaisir d'être dans ces studios où les deux technologies cohabitent, ce qui est assez peu courant aujourd'hui, voilà, et c'est aussi un des savoir-faire de notre travail de restaurateur, c'est-à-dire une maîtrise de tous ces outils analogiques mêlés à une maîtrise des outils actuels numériques.
Pour en revenir à la manipulation physique des matériels, en tentant de sauvegarder une archive, paradoxalement, dans le même geste, il peut donc vous arriver de perdre le support d'origine, avant même d'avoir pu travailler dessus, j'imagine.
Oui, ça peut arriver, effectivement.
C'est rare.
Que certains supports se fassent en lecture, enregistrement simultanément, on va dire, pour que on puisse le sauver. La manipulation déjà en elle-même va peut-être rapprocher le support de la destruction, et donc du coup la lecture aussi, qui est une épreuve mécanique assez rude pour des supports qui peuvent être déjà très fragilisés, va probablement amener le support à être totalement détruit à l'arrivée. Donc des fois il faut agir très très vite pour certaines phases de disque. On peut éventuellement réintervenir sur certaines phases de disque si le sillon se décolle en recollant certaines parties. Mais sur la bande magnétique, c'est plus délicat parce que la partie enregistrée du son peut se séparer assez brutalement de la partie liante. Et donc après la lecture, après l'enregistrement, on va avoir peut-être la bande qui sera détruite ou qui va mal se rebobiner sur la bobine réceptrice du magnétophone, et auquel cas la bande sera quasiment complètement détendue et ne pourra plus être lue à nouveau.
En fait, c'est vrai que les supports que nous traitons ici ont des fois pas revu le jour depuis le jour de l'enregistrement, donc il s'est parfois passé plus de 50 ans. Et même s'il est maintenant, ça n'a pas forcément toujours été le cas, mais aujourd'hui les matériels sont très bien entreposés, dans de très bonnes conditions. Mais il y a quand même une manipulation, la lumière du jour, le transport, et la lecture physique. C'est vraiment, voilà, on est vraiment dans des lectures physiques des supports avec une vraie manipulation. On n'est pas dans des lectures optiques. Quand on lit un disque, il y a vraiment une pointe qui vient dans le sillon. Donc, on les sollicite énormément, ces supports. Et donc, c'est vrai que parfois, ils sont sauvés parce que numérisés, mais le support peut avoir pris un petit coup après tout ça, quoi.
Et parfois, les supports sont si altérés qu'il est impossible de les lire. Ça arrive, ça?
Ça arrive d'ouvrir une pochette de disque et d'avoir effectivement le vernis sur lequel est gravé le son qui est en miettes à l'intérieur de l'enveloppe. Et on récupère un disque en métal ou avec des fragments de son, mais qui sont impossibles à restaurer.
Christophe Gibois.
Nous pouvons avoir aussi des disques qui sont tellement marbrés avec des fissures très importantes sur la face lisible que du coup le fait même de le poser sur la platine ou de le lire avec une pointe, on risque plus de casser la pointe en fait et on ne peut pas obtenir grand chose. C'est là où il faudrait, nos collègues de la recherche sont dessus, une machine qui serait à lecture optique pour le coup. Ça permettrait de éventuellement recoller les morceaux de son.
Il y a une chose juste qui peut être, enfin, qui est intéressante, sans être trop dans la technique, c'est-à-dire qu'en fait, tous les disques de notre fond ont une taille de sillon qui n'est pas du tout la taille des sillons des 10-78 tours qu'on a pu trouver après. Mais par contre, on a la chance que pendant à peu près 25 ans, cette taille de sillon a été standardisée sur tous les 78 tours de la radio. Et du coup, on doit quand même se faire tailler des pointes sur mesure. Par un vieux monsieur, un vieil artisan anglais, qui nous aide à reconstituer des pointes pour lire ces disques qui ont vraiment une taille de sillon qui n'est pas du tout la taille des sillons ordinaires.
Et quelle est l'émission, le matériel le plus ancien que vous ayez eu à restaurer? Jonathan Fitt aussi.
Je ne me rappelle plus vraiment, mais je dirais de mémoire... Quand on arrive déjà à la fin des années 30, on est déjà... Il y a des supports plus anciens à l'INA, mais je pense pas avoir fait quelque chose... Peut-être ça devait être 39, quoi, 40, mais je crois pas avoir été avant.
J'allais dire un cylindre, mais on n'a pas la machine pour le lire. Mais dans les mêmes années, pour moi aussi, oui.
Disons que quand on est vraiment au début des années 40, 40, 41, 42, c'est vraiment... Voilà. Avant, c'est quand même plus rare, mais je sais qu'on a des enregistrements plus anciens.
Donc, première étape, vous avez à présent un fichier numérique, mais qui présente encore tous les défauts liés à sa qualité d'enregistrement d'origine et à sa dégradation avec le temps, c'est bien ça?
Oui.
Et ensuite, donc, commence le travail de restauration. Que fait-on ensuite?
Ensuite, nous allons effectuer pour les disques 78 tours le montage dans son intégralité. Donc, ce qui revient à effectuer le travail de synchronisation dont parlait Jonathan tout à l'heure. Et déjà, le choix du moment où on va synchroniser les faces numériquement est aussi un acte de restauration, puisque c'est un choix esthétique très fort, puisque le son a une caractéristique propre, plus on se rapproche de la fin d'une face. Et quand on commence une nouvelle face, alors qu'on a le même contenu sonore, l'enveloppe du son est différente, la richesse du son peut être différente, et donc nous allons chercher un point qui va être le plus fluide possible, le moins déstabilisant pour l'écoute et pour l'oreille, pour avoir une continuité sonore. Donc déjà, le montage est un acte très fort en termes de restauration, et ensuite nous allons travailler sur les chocs impulsionnels qui sont propres à ce genre de support, les clics, les craquements, le bruit de surface, donc tout ce qui est impact, qui peut se rapprocher un petit peu d'un son comme un feu de cheminée. On a l'habitude d'avoir des crépitements comme ça. Donc le disque 78 tours comporte énormément de défauts comme ça.
Jonathan Fitt aussi.
Donc en fait, du coup, on a tout un choix de comme je disais tout à l'heure, qu'on fait faire des pointes sur mesure par un artisan. En fait, la cellule qui nous permet de lire le disque, il y a vraiment, cette cellule a vraiment différentes caractéristiques. C'est un peu comme un micro qu'on va choisir pour enregistrer une voix et donner telle ou telle couleur ou même des haut-parleurs qu'on va avoir chez soi. Les cellules ont des couleurs, donc on a fait un choix de 5 ou 6 cellules qui sont vraiment très différentes, sur lesquelles on vient interposer donc les pointes que notre petit artisan anglais nous prépare soigneusement. Et en fait, c'est vrai que le choix vraiment de cette cellule est vraiment déjà un acte de restauration à part entière, parce que on a vraiment une philosophie commune, comme disait Christophe, dans l'équipe, mais voilà, chacun est libre de choisir la couleur qu'il préfère, et donc le choix de cette cellule est déjà un acte de restauration à part entière.
Le mieux serait peut-être de prendre un exemple concret. Que pourriez-vous nous faire entendre?
Alors, on a sorti un 78 tours sur le microscope, je crois, quelque chose qu'on a pris.
Nous allons l'écouter en même temps que vous. On l'a pas écouté, on n'a pas travaillé dessus encore.
C'est fin des années 40, je crois, ou début des années 50, je sais plus.
53, apparemment, l'enregistrement.
Voilà. On voit bien que ça ressemble à vraiment un disque vinyle. Et on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, sur les disques 78 tours, les disques à gravure directe, il n'y avait pas du tout la possibilité d'effacer ou de réenregistrer. La grande différence, on en reparlera tout à l'heure avec la bande magnétique, c'est-à-dire que quand c'était gravé, et souvent on voit effectivement des traces de pastel grasse comme ça sur les disques. Alors là, il s'agit d'une pastel jaune qui indique vraiment que c'est la fin de la face, parce qu'il ne doit pas y avoir de synchro avec la face suivante. Mais des fois, on retrouve des traces vraiment au milieu des faces qui indiquent qu'il faut vraiment, sur la feuille de montage, ça indique qu'il faut couper à la ligne rouge, etc. Et en fait, l'idée pour nous, c'est qu'au moment donc de la sauvegarde, on fait vraiment une numérisation, une acquisition des faces une à une pour les disques. Mais par contre, l'exemplaire de restauration, qui est donc une interprétation personnelle, encore une fois, on essaye de le monter tel qu'il a été diffusé à l'époque.
Et vous gardez donc deux fichiers distincts pour une même émission, un fichier brut.
Chaque support physique, original, analogique qui rentre dans les studios donne naissance à deux fichiers. Donc on a vraiment un exemplaire de sauvegarde qui est une transposition de l'analogique au numérique, une copie fidèle.
Sans interprétation.
Sans interprétation.
Objective, le plus possible.
Et ensuite un exemplaire de restauration, voilà, sur lequel on va pouvoir s'exprimer un peu en fonction du document. Et cet exemplaire de sauvegarde nous permet aussi, nous permettra dans le futur de pouvoir revenir, de régénérer une restauration si nécessaire, parce qu'il y aura peut-être demain des outils qui nous permettront de régler des problèmes qu'on ne pouvait pas gérer aujourd'hui. Et l'exemplaire original sera peut-être plus lisible pour le coup, donc on aura une sauvegarde en haute définition, qui nous permettra de réintervenir dessus.
Oui, puisqu'en attendant, le matériel d'origine se dégrade.
Exactement. Oui. Et puis, même si on essaie de prendre beaucoup de recul par rapport au travail qu'on fait, l'erreur est humaine et des fois, on peut se dire qu'on aurait pu peut-être mieux faire avec le recul. Voilà, c'est vrai qu'en général, dès qu'on est sur des restaurations complexes, on essaie toujours de laisser poser une nuit avant de tourner vraiment les réglages. C'est un peu comme un mix en musique d'un morceau. Voilà, quand on a vraiment la tête dedans, on a toujours besoin de prendre du recul, se détacher pour faire les bons choix. Donc voilà.
C'est vraiment une sorte de photographie à l'instant T.
Là, j'ai posé donc un disque 78 tours.
Il y a quelques années, on pouvait penser que le microscope optique, le microscope classique, avait en quelque sorte dit son dernier mot, parce qu'il paraissait avoir atteint son plus haut degré de perfectionnement possible. Or, il n'en était rien, et le microscope optique a récemment bénéficié, n'est-ce pas, monsieur le directeur, de nouveaux et très importants progrès.
Il nous a paru que ces nouveautés très importantes et qui sont dues pour une part notable à des travaux faits en France, pourraient intéresser bien des auditeurs non spécialistes. auxquels se joindraient peut-être certains usagers du microscope qui se croiraient.
Alors là, on entend vraiment le disque à l'état brut.
Sans nettoyage.
Et alors, on en a des quand même plus sales. Hein. Là, on voit qu'il est quand même relativement noir. Des fois, ils arrivent, ils sont vraiment gris parce qu'il y a cette matière dessus, ce dépôt qui est vraiment très important. Mais en tout cas, le fait de pouvoir le lire plusieurs fois avec des pointes différentes, c'est-à-dire qu'on a aussi des pointes qui font vraiment la taille des sillons, mais on a des pointes aussi plus fines qui permettent d'aller un peu plus en profondeur dans le sillon, ou au contraire, on en a des un peu plus grosses qui permettent de rester plus en surface. Donc on va, comme disait Christophe, faire des écoutes au moment du nettoyage des faces pour voir aussi ce qui nous semble le plus cohérent en termes de couleur sonore. Et en même temps, ça permet de nettoyer le disque.
Christophe Jolibois, on peut peut-être aussi évoquer votre travail sur un inédit de Charles Mingus, Sauvé de l'oubli, en 2016, je crois.
Effectivement, ça a été un très très beau projet. Nous travaillons beaucoup pour une émission de France Musique qui s'appelle Les Légendes du Jazz et qui est une émission qui est construite à partir de la rediffusion intégrale de concerts de très grands artistes de jazz. Donc principalement, les supports originaux sont des bandes magnétiques. Jusqu'à présent, nous n'avons travaillé que sur des bandes magnétiques, sur les concerts originaux. Et effectivement, il y a eu ce très grand moment avec la redécouverte d'un titre inédit de Charles Mingus. Il se trouve que ce titre était à la fin de la bande magnétique et qu'il était au moment du rappel. Les bandes avaient continué à tourner, mais simplement, il y avait beaucoup de temps qui s'était écoulé sur la bande.
Et personne n'avait pensé à aller jusqu'au bout.
Il fallait aller jusqu'au bout de la bande, puisqu'effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de silence entre la fin du dernier titre, les applaudissements, ce qu'on pouvait interpréter comme étant la fin du concert, et ce titre où ils sont tous revenus.
Dans quel état était cette bande magnétique ?
La bande était... pas dans un état extraordinaire, elle était un petit peu trop détendue, donc il a fallu peut-être la lire plusieurs fois pour pouvoir la rembobiner correctement et qu'elle soit bien serrée. Ça c'est propre vraiment à ce type de support-là. Les bandes magnétiques des fois sont pas très serrées autour de leur noyau, donc la lecture peut être un petit peu compliquée. Mais sinon, elle était le son était relativement bien enregistré. Il y avait des choses à faire en termes de là, c'est une interprétation personnelle, puisque Mingus étant contrebassiste, je voulais vraiment remettre en avant le côté chaleureux de la contrebasse et l'intensité du titre inédit, puisqu'il y avait vraiment cette espèce de magie de la redécouverte complète. Donc c'était vraiment ça l'idée.
Et tout ça aussi pour un son bien spécifique, le son de France Musique.
Exactement. C'est là où la spécificité de notre travail des deux studios de restauration avec l'équipe des documentalistes et les producteurs de Radio France prend tout son sens, puisque le travail que nous effectuons est vraiment orienté en termes de diffusion pour retrouver justement cette magie de l'analogique à travers la rediffusion hertzienne ou via des podcasts ou du streaming.
Et peut-être voulez-vous nous faire une écoute de bande magnétique, je ne sais pas, ou ouais, une démonstration.
En fait, on aurait pu aussi parler encore un petit peu de la bande, je pense.
Oui, de la bande, pardon.
De la bande magnétique. Mais effectivement, on peut préparer un support en même temps. Je crois qu'on l'a peut-être dit un peu de façon assez brève tout à l'heure, mais du coup, la bande magnétique a été vraiment développée pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Du coup, à des fins d'espionnage au départ. Et c'est vrai que l'arrivée de la bande magnétique a été un gros bouleversement dans l'histoire de la radio, parce que du coup, elle a permis de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire couper, copier, coller. Toutes les manipulations qu'on peut faire aujourd'hui en informatique, c'est quelque chose que la bande magnétique nous a permis, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les disques. C'est un grand changement pour nous, parce qu'on voit que le rythme des émissions change, parce qu'il y a beaucoup plus de montage. Ensuite, il y a l'arrivée aussi des magnétophones portables qui permet aussi d'aller en extérieur, chose qui était très compliquée avec les disques à l'époque, parce que les machines de gravure étaient extrêmement lourdes. Donc il y avait très peu de reportages à l'extérieur. La bande magnétique permet permettre toutes ces choses, vraiment toute cette souplesse qu'on peut avoir aujourd'hui, et sans parler de toute l'histoire de la musique pop ou expérimentale qui est complètement en lien avec le support. On pense aux Beatles qui passent leur partie de leurs enregistrements sur bande au ralenti ou en accéléré, Jimi Hendrix qui passe ses solos de guitare à l'envers, et puis toute l'école de Pierre Schaeffer et du groupe de recherche musicale qui utilise la bande comme un instrument en soi, en créant des coupes très petites, en passant des sons dans de nouvelles vitesses, en ralenti, etc. Donc c'est vrai que l'arrivée de la bande magnétique est un gros bouleversement à la fois dans l'écriture des documents radiophoniques, parce qu'on a vraiment un nouveau rythme qui apparaît dans vraiment l'écriture des émissions, et à la fois une très grosse révolution dans la pop musique et dans la musique expérimentale qui est vraiment liée au support, quoi.
Alors qu'est-ce qu'on écoute et sur quelle machine ?
Alors là, c'est donc une bande magnétique de concert de jazz de Gary Burton, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, Gary Burton, c'est un concert de 1975 qu'on va écouter sur un magnétophone Studer A816. C'est un magnétophone très peu courant. Ce magnéto, on l'aime particulièrement parce qu'il permet de régler différentes tensions de bande entre les différents plots qu'on peut voir ici. Et du coup, ça peut nous permettre de régler certains problèmes de pleurage qu'on peut avoir. C'est vrai que les bandes, comme les disques, quand elles arrivent ici, souvent elles ont été enfermées dans leur petite boîte pendant plusieurs dizaines d'années avant de revenir chez nous, d'arriver chez nous. Donc elles sont souvent assez sèches. Et les bandes, elles sont, il y a certaines bandes qui peuvent être aussi très fines. Donc du coup, on peut avoir le son en fait qui se fossilise sur les spires, les unes derrière les autres. Donc on peut avoir des problèmes d'écho de bande, etc. Enfin, il y a tout un tas de problématiques qui sont encore très différentes sur les bandes. Et du coup, c'est vrai que là, un petit peu comme on dirait la similitude avec les disques, où du coup on va les lire avec des pointes différentes, etc. Quasi systématiquement, une bande, quand elle arrive chez nous, on va la bobiner, la rembobiner à faible vitesse pour l'assouplir. Et voilà, on a besoin d'avoir des magnétos avec des chemins de bande assez complexes, ce qui n'est pas le cas des magnétos que du grand public, qui avait souvent qu'un seul plot avant d'arriver sur la tête de lecture. Donc on a besoin d'un chemin plutôt complexe avec au moins 3 plots avant les têtes de lecture pour stabiliser la bande le mieux possible sur les têtes au moment de la lecture. Donc voilà, la bande elle est chargée. Voilà. C'est une bande 38. Et alors, en fait, il y a une opération qui est vraiment très importante pour nous quand on reçoit les bandes, c'est de retrouver, comme toutes les bandes qu'on reçoit, elles ont été enregistrées sur des magnétophones différents. Ce qui est très important, c'est de retrouver la position initiale de la tête de lecture par rapport au magnéto enregistreur de l'époque. C'est ce qu'on appelle régler l'azimut, ce qui explique ce tournevis qu'on retrouve un petit peu sur chacun de nos magnétos. Ce qui est en fait ce qui nous permet de faire bouger légèrement l'axe de la tête de lecture et qui nous permet de retrouver l'angle initial du magnéto enregistreur, le magnéto source, et on va écouter l'influence que ça peut avoir sur le son. Voilà, quand l'azimut est mal réglé, je pense qu'on l'entend bien, le son est très sourd et petit à petit
on l'éclaircit.
Voilà, donc j'ai fait un demi-tour, un tour de tournevis. J'ai fait, voilà, ça se joue à pas grand-chose. C'est une opération vraiment très, très simple, très basique, mais qui est vraiment indispensable pour avoir la meilleure restitution de la bande magnétique. On peut parler aussi peut-être donc de l'évolution, comme disait Christophe tout à l'heure, de la vitesse des bandes. En fait, systématiquement, au début de la bande magnétique, on était en 76 cm secondes, avec beaucoup de montage. Forcément, on pouvait monter, donc on s'en privait pas. Et donc, du coup, on retrouve des bandes qui sont assez grosses, qui ont des diamètres presque de 30 cm, mais qui ont en général pas plus de 15 minutes de son, 12-14 minutes de son dessus. Donc c'est des bandes qui vont extrêmement vite, 76 cm secondes, ça veut dire 76 cm pour une seconde de son. Donc c'est des bandes qui défilent extrêmement vite. Le son est, comme disait Christophe, très signé, très marqué sur ses supports. Il est très identifiable. Mais par contre, c'est des supports extrêmement fragiles parce qu'ils vont extrêmement vite, ils défilent extrêmement vite. Donc, il faut toujours faire corps avec son magnéto pour suivre ces bandes qui sont parfois pas très dociles parce qu'elles sont très sèches et elles peuvent vraiment... Ben voilà, ça peut vraiment partir dans tous les sens.
C'est aussi un travail physique.
Ah bah complètement, en fait, c'est ça qui est...
Travailler autant à l'œil qu'à l'oreille, quoi.
Ah enfin... ouais, complètement, avec les mains, on travaille beaucoup avec nos mains. Et c'est passionnant dans le travail du son de travailler avec ses mains dans un monde si immatériel aujourd'hui. Voilà, de travailler avec ses mains, moi, c'est ce qui nous touche d'ailleurs tous, je pense, dans ce métier aujourd'hui, quoi.
Et à quel moment, donc, dites-vous, c'est terminé, j'arrête, le travail est fini?
Alors, c'est au coup par coup. En fait, ça dépend des supports, ça dépend des contenus. C'est vrai que parfois, moi, je suis toujours très surpris de voir, on travaille beaucoup sur le fond de jazz, donc il peut y avoir vraiment des problèmes inhérents, par exemple, à la prise de son de concert. Ou aussi quand on travaille beaucoup sur le fond du GRM, du groupe de recherche musicale, la restauration physique des supports est vraiment indispensable, mais il arrive quand même relativement souvent que la qualité sonore soit vraiment au rendez-vous, même sur des documents qui datent du milieu des années 60. Je pense que la qualité, donc le savoir-faire des ingénieurs du son de l'époque était vraiment très grande. Enfin, je veux dire, surtout les gens qui bossaient pour la radio, etc. Ils étaient vraiment triés sur le volet, comme le matériel d'ailleurs qui était utilisé. C'était vraiment de l'électronique. Voilà, il y avait des cahiers des charges étaient extrêmement stricts. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui toutes les marques françaises ou étrangères qui équipaient les maisons de la radio sont devenues des marques un peu mythiques. C'est parce que c'est des produits qui fonctionnent toujours aujourd'hui. On pense à Nagra, Studer, Schlumberger et autres grandes qui sont aujourd'hui très prisées dans les grands studios d'enregistrement. C'est pas pour rien et ça s'entend encore aujourd'hui. D'autant plus que je pense qu'aujourd'hui on a des systèmes pour le coup de restitution des haut-parleurs qui peuvent être de meilleure qualité que les systèmes de diffusion de l'époque. Et donc du coup, on redécouvre aussi, avec des écoutes modernes, des enregistrements anciens, mais qui, moi, peuvent toujours me surprendre de par la qualité, en fait, des captations et des prises de son vraiment qui sont extrêmement bonnes. C'est-à-dire que même tout ce qui est en musique électroacoustique sur des compositeurs comme Bernard Parmigiani ou François Bayle, voilà, c'est des bandes qui sont extrêmement difficiles à lire parce qu'elles sont extrêmement montées, les bandes sont extrêmement coupées, enfin, veut dire comme je disais, le support lui-même fait partie vraiment de, c'est un instrument de création, de fait de découper des micro-sons et de les coller les uns à la suite des autres, etc. Mais par contre, une fois que ces restaurations mécaniques sont faites, la maîtrise sur l'enregistrement sur bande magnétique était très grande et on a vraiment peu de choses à faire. Ça arrive souvent qu'on puisse avoir peu de choses à faire sur la qualité parce que la qualité sonore est déjà au rendez-vous. C'est pas toujours le cas, bien sûr, mais ça peut arriver même sur des enregistrements très anciens.
Et qu'est-ce qu'une restauration réussie, Christophe Jolibois?
C'est une restauration qui me plaît. Pour laquelle j'ai passé le temps que j'estimais nécessaire. Et effectivement, il faut parfois savoir s'arrêter aussi, ce qui est des fois difficile parce que on est très perfectionniste et on essaye toujours d'aller le plus loin possible. C'est là où il faut mettre le curseur au bon endroit. Et savoir s'arrêter, ça veut dire des fois... déjà reposer les oreilles aussi, puisque on peut laisser passer un peu de temps et revenir le lendemain réécouter quelque chose et avoir un peu une autre approche et trouver la solution beaucoup plus rapidement. Des fois, ça c'est un phénomène qui est vraiment très connu des ingénieurs du son. Quand on travaille longtemps sur quelque chose, quand on a la tête dans le guidon, des fois la solution redevient un petit peu plus simple avec un peu de repos d'oreilles. Et sinon, une restauration réussie, c'est celle qui me plaît et celle où je suis capable d'expliquer ce que j'ai fait. Si jamais on me demande quelles sont les problématiques auxquelles j'ai pu être confronté, quel est mon ressenti d'auditeur, tout simplement aussi. puisque je travaille pour ça.
Jonathan Fitt aussi.
C'est une restauration dont on n'entend pas vraiment qu'elle a été restaurée, parce que c'est un... On doit rester très fidèle par rapport aux documents d'époque et on va interagir vraiment différemment en fonction... On n'a pas les mêmes marges de manœuvre en fonction que ce soit de la musique ou des documents parlés, etc. Mais en tout cas, vraiment, notre but, une philosophie vraiment d'équipe, c'est vraiment rester fidèle, sincère par rapport aux documents de l'époque, quoi. C'est-à-dire rester dans une démarche assez minimaliste, faire ce qu'il faut faire pour retirer les bruits gênants, mais garder une certaine patine aussi par rapport aux documents d'époque, etc. Et ça, je pense que vraiment, on est tous dans cette démarche, quoi.
Et une fois les émissions restaurées, donc numérisées, pour leur conservation, est-ce qu'on mise aujourd'hui uniquement sur le numérique ou est-ce qu'on fait aussi une sauvegarde analogique sur bande magnétique, par exemple, comme le fait la Cinémathèque française, dont la politique est de conserver les copies numériques des films, mais aussi de faire systématiquement, quand ils le peuvent, une copie analogique en pellicule, donc?
Non, on ne fait pas ça.
Puisqu'avec le temps, le numérique n'est pas une garantie d'éternité.
C'est sûr. Mais ça, moi, je trouverais ça super qu'on le fasse.
Mais on y viendra peut-être.
En tout cas, non, c'est pas quelque chose que nous faisons. Les documents que nous traitons, les originaux, repartent dans les magasins entreposés. Donc, les originaux sont conservés. Hein. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas une copie analogique qui est faite pour l'instant. Pas d'actualité, je pense.
C'est vrai qu'il faut avoir en tête que la bande magnétique, c'est le support qui a eu la plus longue durée de vie en termes d'utilisation professionnelle.
Ouais, les supports audio, ouais.
C'est une durée absolument remarquable en termes de décennies, hein, même.
Plus de 60 ans, ouais.
C'est gigantesque sur une utilisation professionnelle.
Très bien, merci beaucoup Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette nuit du patrimoine radiophonique. Dans un instant, Magie et vérité des sons, Lise Caldagues, une émission proposée par Guy Erisman en 1964. Puis André Aubé parlera du genre radiophonique au micro de Jacques Marcereau dans Plein feu sur les spectacles du monde de René Villemay. C'était aux alentours des années 50. Nous retrouverons Marine Beccarelli et Christelle Rousseau dans 2h15 pour la suite du programme de la nuit patrimoine radiophonique sur France Culture. Et nous vous rejoindrons en fin de nuit, Jonathan Fitoussi et Christophe Jolibois. À tout à l'heure.